Ah ouais, mais bon.
Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce petit live. Déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que vous êtes bien au rendez-vous? Est-ce que vous êtes bien là? Dites-le nous ici dans les commentaires. On va essayer d'en prendre quelques-uns. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui est là pour ce petit rendez-vous avec Stéphane, Philippe? Dites-moi tout, dites-nous tout plutôt, pour
Et
qu'on puisse
Fred?
savoir si vous êtes là. En tout cas, je
Et
vois qu'on
c'est
diffuse en
Fred.
live.
Ça,
Je
c'est
vois
plutôt bon
qu'il y a
signe.
un peu de monde qui se connecte tranquillement. On va dire bonjour à tout le monde. Et on va se faire un plaisir de vous faire une petite session qui va être sympa.
Oh, il y a ça un
Puisque...
peu. Steph,
Parce
tu
que
lui mets des
du
cœurs
love.
pour inviter les gens. Tu
J'envoie
vois,
du
c'est un
love.
il envoie du
Oui,
love.
parce que
Tiens,
c'est
on se lève.
l'anniversaire de Stéphane
Eh
aujourd'hui.
oui. Et il
Donc,
s'est
bon
dit que
anniversaire,
pour son
Stéphane.
anniv, faire un
Merci.
webinar, c'était quand même un super cadeau, quand même.
Merci, merci.
Allez, bonne anniv, mec.
Alors, donc, il y a Earth qui est là, il y a Mylène qui est là, il y a Khalid qui est là aussi.
Yo, tout le monde.
Donc, il y a déjà des petites conversations. Pour le moment, je n'ai pas vu une seule bonne campagne marketing sans se faire sans un bon marketeur. Je suis loin de me poser la question, etc. Donc, il y a Mylène qui dit audit d'obsolescence, ça, c'est vraiment percutant. Donc, ça, c'est toi, mon cher, qui va nous en parler. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à l'heure et on essaie de finir vers 12h45, 13h, selon les questions que vous avez à nous poser. Donc, la thématique de ce webinaire était assez intéressante, c'est les marketeurs ont-ils encore un avenir, en particulier avec la puissance et la montée en puissance de l'intelligence artificielle, cette infopocalypse, hein, tout cette déluge d'informations, cette difficulté à atteindre les prospects, ce contexte économique qui devient vraiment beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, on le sent, les décisions qui sont reportées, une incertitude, qu'est-ce que je vais faire? Et en même temps, justement, est-ce qu'on ne peut pas transformer cette crise en opportunité, comme le signe chinois crise qui a une double signification. Ok, il y a une crise, mais en même temps, il y a une opportunité de se transformer. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Truffem et Philippe Gastaud, deux experts marketing. Alors, je vous laisse vous présenter, les gars.
Vas-y,
Vas-y,
Steph.
Philippe. Non, mais vas-y,
Ah!
vas-y.
Bon, alors, ok, ça marche. C'est moi qui démarre. Ok,
Honneur aux
bon,
jeunes.
merci, 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 Fred. On va passer, ouais, comme tu l'as dit, hein, 45 minutes ensemble. On va aborder tous ces sujets-là. Pour ma part, moi, je suis consultant en marketing. Donc, ça veut dire que je suis en direct avec les clients qui se posent ce type de questions aussi. Quand je rencontre des équipes marketing, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a encore un avenir? Est-ce que l'IA va pas nous remplacer? Enfin, bref, des questions que vous entendez tous les jours. Voilà, c'est, je vais apporter mon expérience terrain moi aussi. Et puis, je suis aussi formateur, donc j'accompagne également des professionnels qui cherchent justement à gagner en compétences et utiliser les nouveaux outils. Et j'écris des bouquins sur le market, notamment avec Stéphane. On a écrit quelques-uns ensemble sur la boîte à outils du marketing digital. Et puis, le prochain sur lequel je vais pouvoir faire là, bientôt la promo, c'est celui pour les nuls, la collection pour les nuls. J'ai écrit un bouquin sur le marketing digital qui sort le 7 mai. Voilà, vous savez tout. Et
Cool.
toi, mon Steph, alors, bon anniv?
Bon, et c'est que tu n'as pas souligné que c'était un best-seller, le bouquin
Ouais, vas-y.
qu'on a rédigé, enfin qu'on a écrit tous les deux, plus
C'est
de
vrai.
15 000 exemplaires vendus. Donc, c'est une belle
Ouais.
réussite éditoriale. Donc, moi, c'est Stéphane, vous l'avez compris, c'est mon anniversaire. Donc, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires, c'est sympa. Écoutez, je suis un entrepreneur du web. J'ai dû à peu près commencer à la même période que Fred. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que tu as pris le virage du
2006.
2000 combien?
2006.
Ah non, j'ai commencé bien avant toi alors. Moi, j'ai commencé en 97. Donc voilà, j'ai plongé tête première dans le web. Et puis en 2000, j'ai créé une agence marketing digital, donc pure player B2B, que j'ai revendu en 2015. Et puis, depuis, je suis consultant un petit peu comme Philippe, alors sur une partie très inbound marketing, très content marketing. Bien évidemment, aujourd'hui, à fond la caisse sur l'IA. Donc, j'orchestre des formations, des accompagnements autour de l'IA et de tout ce qui est strat marketing.
Je suis également directeur de collection chez Vuibert et j'en profite
Royal.
Pour montrer les deux premiers auteurs qui ont paru dans ma collection.
Je le veux.
Michel Brébion et Johnny Tonnerre. Alors, celui de Johnny, je crois qu'il sera dans les bacs à partir de demain, je crois, ou après-demain, le 16. Voilà, donc les deux premiers bouquins de ma collection, j'en suis super, super, super fier.
Ah, ben bah, oui. Voilà. Alors, c'est quoi les prochaines actus du directeur de collection, là?
Alors, le prochain bouquin, ça sera celui de Mick Lévy sur l'IA. Et puis après, je ne vais pas quand même tout dévoiler, mais je peux dire que j'en ai un sur le SEO, le GIO. Donc, on va peut-être reparler un peu de GIO, justement, tout à l'heure. J'en ai un également sur tout ce qui va être neuromarketing. Et puis, quelques autres, mais c'est un peu tôt pour dévoiler, parce que tant que ce n'est pas signé… Ouais.
C'est vrai que je suis d'accord avec toi que les neurosciences et le neuromarketing va te prendre de plus en plus d'importance parce que avec l'IA, tu auras de l'automatisation et bien sûr, quand on aura affaire à un humain, il ne faudra surtout pas manquer cette occasion et justement utiliser des techniques de neurosciences. Il y en a qui sont bien sûr simples à mettre en place et d'autres qui sont un peu plus compliquées mais qui donnent vraiment de super effets.
C'est clair.
Merci à tous les deux donc pour cette petite introduction. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, bien entendu, c'est quel va être l'avenir du métier de marketeur. Donc, comme tu l'as dit, Stéphane, on va devoir utiliser l'IA, plus d'humains également. Et pour cela, une première assertion qu'on voit, c'est tout simplement le marketing bien exécuté, tu l'as dit, c'est une commodité, c'est-à-dire que le niveau de jeu s'est vraiment augmenté. C'est-à-dire que moi, je le vois de mon côté, une campagne marketing classique qui marchait bien il y a quelques temps, ça devient de plus en plus compliqué à la faire marcher. Il n'y a pas longtemps, je te donnerai un partage d'expérience très simple, on a organisé une matinale dédiée au transport, logistique, énergie, donc avec des retours d'expérience, il y avait Veolia, Haute-Paris, il y avait RATP, il y avait EDF, etc. Donc, super beau nom. On fait la matinale, on envoie l'email disant « Ouais, une matinale pour vous, tac !» Et on se retrouve avec quelques dizaines d'inscrits. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai qu'on a dû augmenter le niveau de jeu, c'est-à-dire qu'on envoyait des emails verticalisés pour chacun des secteurs avec la personne qui parlait, l'enjeu qui pouvait les intéresser, la bonne accroche, le bon objet. Et là, tout de suite, bam, ça s'est envolé. Mais ça nous a vraiment obligés à améliorer notre niveau d'exigence en fait vis-à-vis des envois qu'on fait. Alors justement, est-ce que vous aussi, les personnes qui écoutez, Stéphanie, Christian, Tristan, Jean-Emmanuel, Johnny, comme tu as dit, un poulain, je crois, de ta maison d'édition, est-ce que vous, en fait, vous allez vous constatez aussi la même chose? Et toi, Stéphane, toi, Philippe, est-ce que tu constates aussi la même chose?
Mais ça va même, je dirais, ça va même beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'IA, un non-marketeur peut devenir très, 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 très bon en marketing. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc, il y avait eu un petit commentaire là dans le flux des commentaires sur LinkedIn pour l'inscription de notre événement. Il y avait une personne qui disait « Je n'ai pas encore vu une belle campagne marketing sans un bon marketeur ou quelque chose comme ça. » Et en fait, aujourd'hui, oui, on peut avoir des succès marketing, orchestrer des opérations, des campagnes marketing avec un niveau mais vraiment, vraiment, vraiment top sans être marketeur, tout simplement en utilisant l'IA de manière à bon escient et en se faisant épauler. Donc, c'est en ce sens que c'est devenu une commodité. On voit notamment l'exécution, alors la stratégie, là on va retrouver un peu les aspects forcément humains, compréhension de son marché, compréhension des convergences, on va parler des convergences dans un moment. Donc c'est véritablement ça sur lequel il va falloir monter, cet angle stratégique, cet angle de la vision, de la compréhension très 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 fine du terrain, de ses marchés, de ses niches. Mais aujourd'hui, ce qu'on opérait en tant que marketing opérationnel, franchement, on ouvre un cowork, on ouvre un cloud code, et voilà, en se formant.
Ah, mais je te rejoins 100%. Moi, j'ai enseigné en école de commerce pendant quelques années, et c'est vrai qu'au bout d'un atelier qui durait 4 heures, j'étais très content quand les élèves transformaient une caractéristique en bénéfice, et c'était du boulot. Et maintenant, tu te dis, mais je leur file un email, je leur file une landing page. L'exercice qui était de trouver les erreurs, les analyses, finalement, l'IA le fait à ta place et il rédige ton texte et il fait des choses quand même qui sont de bonne facture. Peut-être pas d'un niveau expert, mais voilà.
Ouais. Alors, bah, tu vois, Philippe, Fred, non, parce que je voulais rebondir sur le fait que tu étais, t'as été prof pour des écoles de commerce, mais si on faisait aussi un rapprochement avec la génération qui arrive, donc nos enfants, et en l'occurrence, j'ai raconté le nôtre, enfin l'un de nos deux enfants, donc notre petit garçon qui a 15 ans, si tu veux, son prof nous a expliqué qu'elle donnait du travail le soir, mais qu'elle ne voulait pas le corriger. Elle a dit simplement, je ne vais pas corriger le travail des parents et pas corriger le travail des IA. En revanche, elle demande à ce que les élèves viennent au tableau et expliquent toute la démarche qui leur ont permis en fait, d'obtenir ces résultats-là. Donc on voit bien qu'en vérité, aujourd'hui, bah, tous ces outils nous permettent d'obtenir des résultats extrêmement bien faits, que ce soit dans nos métiers aujourd'hui. Mais déjà, on est en train d'expliquer aux enfants qui arrivent, aux ados, hein, que ce sont juste des outils, ce sont des plateformes et qu'il faut toujours qu'il y ait une réflexion, une structure de la pensée. Et c'est pour ça que moi, je pense que quand même, voilà, cette réflexion humaine, il faut quand même qu'elle existe. Je suis désolé, mais pour moi, les IA, ça reste juste
un outil.
Une communauté.
Et ouais, un outil. Alors, on va parler de convergence, je crois, d'ailleurs, en plus, non ? Ah, on va voir le
compte. Ouais, alors c'est vrai que ça, et c'est extrêmement vrai. Et c'était, voilà, il y a quelques années, tu disais, ouais, je te vends une bibliothèque de prompts, je vais te donner les prompts pour faire ceci, les prompts pour faire cela. Sauf que moi, je le vois bien. Tu demandes à une IA de t'écrire un prompt qu'en lui expliquant véritablement bien ton besoin, bah, il te propose un prompt qui est adapté. D'ailleurs, comme tu as dit, Claude, et je trouve, est un des meilleurs qui réussit à trouver ce genre de méga prompt par rapport à Gemini, à ChatGPT. Je trouve qu'il est beaucoup plus complet sur le sujet. Mais au-delà de ça, tu as aussi le mode socratique où tu peux discuter avec l'IA, lui expliquer les choses. Mais ça, c'était il y a quelques mois encore. Maintenant, comme on l'échangeait ensemble lors de la préparation, bah, ce n'est plus le prompt qui commence parce qu'en fait, tu peux donner à un agent la possibilité de le faire et même demander à un autre agent de contrôler ce qu'il va faire. Alors, quel est votre point de vue là-dessus, messieurs, surtout,
c'est ce qui rejoint complètement la première slide. Hein, quand on dit que le marketing, l'exécution dans tous les cas du marketing devient une commodité, on le voit à travers ça, c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'une forme d'échange avec un chat. Hein. On promptait ChatGPT, on avait un résultat, bon, on optimisait, on travaillait avec cet outil quelque part, comme si c'était un stagiaire finalement qui nous aidait. Aujourd'hui, bah, tu l'as souligné, et quand on met déjà les doigts dans ne serait-ce que co-work de Claude, je ne sais pas si dans les participants, il y en a beaucoup qui ont déjà basculé sur Claude et sur co-work, mais on voit que l'exécution, c'est fini, quoi. Ça ne coûte plus rien. Ça exécute pour nous. Donc, on n'a même plus besoin de véritablement prompter. Alors, on va déporter le prompt dans ce qu'ils appellent des skills, qui sont des sortes de compétences qu'on va attribuer aux IA, et on va interroger l'IA aujourd'hui en langage naturel, exactement comme ce qu'on est en train de faire en parlant, donc avec l'IA, et l'IA va comprendre que, ah bah tiens, finalement, la demande de Frédéric, la demande de Philippe fait appel à tel ou tel skills, et elle va s'appuyer sur ce skills-là pour connaître finalement les compétences qu'elle doit mettre en œuvre pour répondre à la demande de l'utilisateur. Et puis après, on peut partir, j'en sais rien, déjeuner, aller manger une pizza et revenir, et ça y est, sur son poste de travail, on a le travail qu'on lui a demandé de faire. Donc l'exécution, aujourd'hui, elle est finie. Quoi. C'est là pour le coup. C'est
alors, je mettrais quand même une petite, un léger quand même bémol, mais très léger, en disant que il faut quand même être hyper précis dans son prompt et hyper précis dans ce qu'on veut faire. Je donnerai deux exemples. Le premier, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé donc à Claude Cowork de me réaliser une infographie, un carrousel Canva à partir d'un modèle. Je lui ai dit, tiens, prends cet article de blog, récupère-moi les idées importantes, va ensuite créer le carrousel. Donc, il l'a fait. Il a mis, bien sûr, les éléments, mais je n'avais pas précisé qu'il fallait reprendre les bonnes idées, telles idées, etc. Donc, ce n'était pas encore 100% parfait. Donc, j'avais peut-être pas assez bien précisé ma demande. La deuxième chose, c'est lorsque j'ai transformé un Google Slide en un Word avec différentes parties à coller, des commentaires à copier, j'avais pas précisé quelques trucs à faire et il l'a pas encore fait. Donc, il y a comme un petit travail, je trouve que sur la bonne précision qui est vraiment importante pour ne pas se tromper. Alors, non, mais avis là-dessus compte aussi.
Il y a un travail de setup, effectivement, et
c'est ce qu'on voit dans les commentaires.
C'est là où le skill est supérieur au prompt. C'est-à-dire que finalement, un prompt, on l'utilisait, on pouvait toujours l'améliorer, mais après, il fallait le stocker, se rappeler qu'on avait un prompt pour telle ou telle demande, telle ou telle opération, il fallait le retrouver. Bon, voilà, c'était un peu fastidieux. Alors que là, on a un asset qui est directement inclus dans l'outil et on peut revenir sur cet asset. C'est-à-dire que finalement, exactement ce que tu as dit, tiens, la réponse est un peu imparfaite. Je vais relire mon skill et je vais voir comment je vais pouvoir l'optimiser jusqu'à arriver à une réponse qui est… alors, c'est jamais, jamais, jamais 100% parfait ou alors c'est un peu un coup de chance. Heureusement, on est encore un petit peu utile à ce niveau-là, mais on voit qu'il y a des progrès. Encore une fois, il y a 3 mois, le prompt était important. Aujourd'hui, il est beaucoup moins. Et il y a une accélération qui est prodigieuse. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien, mais dans tous les cas, elle est là et il va falloir s'adapter.
Alors, Philippe, ton retour sur justement cet art du prompting?
Ouais, c'est difficile d'amener quelque chose de supplémentaire par rapport à ce qui vient d'être dit, puis en plus, je le vois dans les commentaires passés. Il y a ce passage-là qui est important, c'est l'amont, en fait, le setup, c'est vraiment ça, quoi. C'est vrai que Steph, toi, quand tu m'as montré un peu Claude Cowork, que tu as quand même passé un temps pour bien plugger toutes tes IA, enfin ton IA avec tous tes dossiers en interne. Ouais, c'est vrai qu'il faut en fait réfléchir à ce à quoi ça va te servir, quoi. Maintenant, sur le prompting, on dit que c'est une compétence peut-être dépassée. Je sais pas, c'est peut-être c'est un peu provoque ce qu'on a écrit, quoi. Parce que non, enfin, c'est quand même la base, c'est-à-dire que dans nos assistants et dans nos agents, ils partent bien à prompt, quoi. Donc, je sais pas si c'est une compétence qui est dépassée. J'ai plutôt envie de dire que c'est censé être inné maintenant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est acquis plutôt. Pas inné, c'est acquis, quoi. C'est acquis.
Après,
si on avance un peu.
Skill, une forme de prompt, hein, donc.
C'est ça. Voilà, mais l'assistant, l'agent, c'est une prompt.
Ouais. Le truc, c'est qu'on va le faire directement avec l'IA, donc bon.
Ok. Voilà. Alors, dans la préparation, vous nous avez dit tous les deux qu'on arriverait vers une convergence. Alors, vous pouvez nous expliquer ce concept?
Ouais. Alors, en fait, ce concept la thématique du webinar est née avec toi, Fred, quand on était en train de discuter sur ton stand il y a quelques semaines. Là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines à peu près au salon All for Customers. Et il y a Emmanuel Obadia qui nous a rejoint. Et qui nous a à un moment donné parlé de la dernière vidéo de AmiWeb. Alors le soir, je me suis dit, je vais aller, j'avais un petit peu de temps, je suis allé écouter AmiWeb. Et elle parlait de la différence entre des tendances et des convergences. Et j'ai trouvé que ça s'appliquait, mais à merveille, à ce qu'on est en train de vivre avec l'IA. Alors, elle nous dit qu'une tendance, on connaît tous des tendances, une tendance, c'est quelque chose qui est visible. Alors, si on la voit, si on la repère un peu en premier, tant mieux, on va surfer sur la tendance et on va probablement augmenter son chiffre d'affaires. Si on loupe un peu le coche, à un moment donné, on va voir la tendance arriver, les gens vont en parler, on se dit je vais m'adapter et puis… tant pis, je ferai peut-être un peu moins, j'aurais pris moins de risques et j'aurais fait un peu moins de chiffre d'affaires que des concurrents qui auraient pris la tendance. Mais dans tous les cas, en aucun cas, une tendance va remettre fondamentalement en cause notre positionnement ou notre business model. Une tendance, une fois que tout le monde l'a adoptée, ça devient une forme de commodité quelque part. Donc voilà. Une convergence, c'est beaucoup plus puissant et c'est beaucoup plus compliqué à appréhender, parce qu'elle ne se voit pas comme une tendance. Une convergence, c'est quelque part une sorte de fusion de plusieurs tendances en même temps. Alors, on peut voir les tendances de manière individuelle, mais on a beaucoup plus de mal à détecter les convergences. Alors, elle donne un exemple qui est relativement simple. Alors, je vais finalement m'appuyer sur l'exemple d'AmiWeb. Elle dit, voilà, le smartphone, c'était une convergence de différentes tendances. Première tendance, c'était la data mobile, hein, les télécoms qui commençaient à proposer des débits pour la téléphonie mobile en data de plus en plus importants. C'est bien évidemment la tendance du pavé tactile qui a remplacé les fameux claviers. C'est la tendance de la miniaturisation de l'électronique. C'est la tendance de la miniaturisation des batteries. Et c'est également la tendance des services web qui ont pu émerger justement aussi avec l'évolution de la téléphonie mobile et qui ont donné donc lieu aux App Store. Et tout ça, ça a généré une forme de convergence qui se cristallise dans ce fameux smartphone tactile. Et on voit qu'il y a des entreprises, BlackBerry, Nokia, qui n'ont pas vu cette convergence et aujourd'hui, qui ont malgré tout qui ont disparu, ou dans tous les cas, qui ne sont plus du tout les monstres qu'ils étaient par le passé. Donc, on voit que des convergences, contrairement à une tendance, va remettre notre positionnement et notre business model en jeu. Et aujourd'hui, on est face à une convergence avec, et on va en parler, des tendances très, 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 très fortes qui font bouger les plaques tectoniques au niveau du marketing. Et c'est d'ailleurs des tendances qui ne sont pas forcément toujours liées à l'IA. Philippe va prendre la parole sur la première des tendances qui est la chute du trafic. C'est une chute du trafic qui avait déjà commencé avant l'apparition de ChatGPT et des IA génératives.
Ouais, merci Steph. Donc c'est vrai qu'il faut bien comprendre que ces convergences, l'une des premières qu'on a voulu identifier avec vous, c'est le fait que le clic, en fait, il a complètement disparu. Alors, on va l'illustrer dans un instant, mais il faut entendre que ce clic, on l'avait d'abord sur Google, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Puis on voit aussi que même nous, les consommateurs, les utilisateurs, les internautes, on clique différemment, on a du mal à suivre du coup, tout simplement le trafic qui va te générer un lead vers ton site web, par exemple. Alors, si on prend des exemples, vous avez vu à l'écran, là, vous avez complètement sur la gauche une capture d'écran sur des réponses d'une SERP Google. Au milieu, c'est censé être un GIF, donc c'est dommage que ça tourne pas, mais c'est pas grave, c'est un son importance, c'est une capture d'écran en tout cas d'un post sur Insta où on va voir des choses qui vont s'animer, je vais vous le dire dans un instant, et ensuite à droite un graphe qui vous parle de ce qu'on appelle du dark social. Alors complètement à gauche, c'est ce qu'on appelle les AI overview, ce sont des résultats de réponses qu'on peut retrouver sur Google qui nous, en tant qu'internautes, nous invitent pas spécialement au clic. On a la réponse, on pose une question, Google vous donne directement les informations, on ne clique plus nulle part. Il n'y a pas si longtemps, on vous disait déjà que Google avait qu'une envie, c'était de se supprimer des sites web, ne serait-ce qu'avec le Google My Business. C'est vrai que finalement, tu es dans la rue, tu tapes restaurant chinois, pizzeria, pour reprendre l'exemple de Steph tout à l'heure, tu es dans la rue, tu es géolocalisé, tu as toutes les infos à droite sur le Google My Business et tu cliques plus, quoi. Les IA Overview, c'est ça. Et en fait, même, c'est déjà finalement une espèce de continuité de ce qu'on avait avec les Featured Snippets, les positions zéro, où on avait des extraits, tout simplement, des réponses qui étaient apportées à la question de l'internaute. Bon, on ne va pas faire un cours sur le SEO. Je vais te laisser prendre la parole, Steph, ni sur le SEO, ni sur le SEO. Mais c'est vrai que ces informations-là, elles viennent toutefois de sites web, il faut quand même continuer à écrire du contenu. Vas-y Steph, tu voulais apporter une précision.
Oui, il y avait déjà, donc vous voyez que c'est une tendance qui est née avant finalement l'arrivée de l'IA générative. C'était avant donc les AI Overview, on est quasi le seul pays à ne pas les avoir aujourd'hui, donc elles vont arriver en France. Mais dans tous les cas, avant l'apparition des AI Overview, qui est là pour le coup directement liée à de l'IA générative, on avait déjà 50% des recherches qui étaient effectuées sur Google qui ne généraient plus de clics avant l'apparition des IA. Donc, c'était déjà une tendance qui était à l'œuvre. Et c'est vrai que finalement, quand on regarde toutes nos opérations marketing, pour être un peu schématique, elles étaient orientées vers la génération de trafic. Je faisais du référencement naturel. Pourquoi ? Pour que les gens cliquent sur mes liens et viennent chez moi. Je faisais des emailing. Pourquoi ? Pour que les gens cliquent sur mes liens et viennent chez moi. Je faisais du média social. On a connu, nous, cette période absolument bénie où on balançait une publication avec un joli lien et on cliquait, on générait du trafic. On faisait des ads, bien évidemment, pour générer du trafic. Et là, on voit aujourd'hui un effondrement du trafic. Et donc, on est en train de changer complètement de monde. Et je te repasse la parole.
Ouais, bien sûr, et c'est vrai que cette génération de trafic, on vient de le voir là sur les exemples des liens sur les SERP Google. Et puis si on continue à l'écran, d'autres illustrations, celle du milieu, c'est donc Insta. Donc le petit gif en fait se mettait en tournait un petit peu, et vous voyez, vous savez, hein, le prix, le modèle, hein, des produits qui apparaissent vraiment dans ce qu'on appelle live shopping, quoi. Donc c'est là où vous faites le clic aussi, disparaît tout doucement, ça fait partie de nos usages. Et puis le dernier élément que je voulais partager avec vous, c'est complètement à droite qu'on voit. Voilà, c'est ce qu'on appelle le dark social. Le dark social, c'est quoi? Ça reprend un peu ce qu'a dit Steph, hein, sur les campagnes, sur les campagnes ads ou sur les réseaux sociaux. Maintenant, le dark social, c'est quoi? C'est tout simplement les internautes qui vont se refiler les infos via WhatsApp ou tout simplement par mail. Et ça, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas l'évaluer, savoir si notre campagne fonctionne, quoi, hein. Donc, voilà l'une des premières convergences. Et il y en a donc d'autres, dont la seconde convergence, la deuxième convergence qu'on voudrait évoquer avec vous, c'est, je crois que c'est Fred qui prend la parole sur le contenu de masse.
Ouais, c'est le contenu de masse. Hein. C'est avec moi qui suis, comme vous, un blogueur depuis très, très, très,
enfin,
très
longtemps. Surtout toi, Fred.
Oui, vous tous. Et c'est vrai que tu as créé une des premières agences sur le contenu marketing, mon cher Steph. C'était en 2000, combien 2000. 2000, ouais, voilà. Ouais, donc, en fait, c'est vrai qu'à l'époque, comme tu dis, c'est une époque où tu créais du contenu. Tu disais, je vais créer du contenu, Google va l'aimer, ça va, en fait, faire venir du trafic. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez vertueux, puisque tu mettais ton expertise, et plus tu avais une expertise intéressante, plus tu publiais régulièrement, plus tu étais mis en avant. Et là, en fait, on voit bien que désormais, avec la génération automatique de contenu, ce schéma, il est remis en cause. Moi, je connais plusieurs experts SEO, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la génération automatique de contenu. Tu dis, je vais te faire 500 articles sur un sujet, donc sur un nom de domaine. Je rachète un nom de domaine assez thématique qui marche pas mal et qui est. Ouais. Et je vais essayer de le rebooster. Et c'est vrai que là, on arrive sur deux limites. La première, on a invoqué précédemment, le zéro clic. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'aller sur Google pour avoir le résultat, enfin, sur ton site parce que Google l'affiche. Deuxième chose, il y a les IA qui. Vont tout simplement permettre d'avoir la réponse sans visiter un site web. Et la troisième chose, simplement, c'est que le contenu est généré de manière en masse, donc de manière massive plutôt, et sans effort. Et c'est vrai que même moi qui suis, j'aime bien écrire des articles de blog, au début, ça m'a fait un peu bizarre parce que au fil du temps, l'IA arrive à écrire quand même de manière de plus en plus proche de moi, de plus en plus proche de mon style, parce que je donne des exemples en fait de contenu, ouais. Des angles de publication. Et c'est vrai que là, j'ai écrit un bouquin il n'y a pas longtemps, je suis en phase de relecture. Alors, l'IA n'a pas réussi à écrire ce que je voulais. On est à 80% d'écriture humaine, mais il y a quand même 20% d'écriture UA dedans. Ça donne quand même une base de travail que tu retravailles, que tu améliores, que tu te fasses en dictée vocale, que tu te fasses à l'écrit, etc. Donc, on voit bien que n'importe qui peut être capable d'écrire sur n'importe quel sujet avec un bon niveau d'expertise. Tu utilises Croc ou Gemini, ou éventuellement Claude, je suis un peu moins bon là-dessus, mais tu arrives à avoir des choses vraiment très sympas. Pour moi, le sujet, c'est que l'écriture de masse n'a plus beaucoup d'importance ou d'avenir. Et je l'ai fait le test, hein. J'ai un petit site laboratoire où je m'amuse à créer des contenus. Par exemple, là, je m'étais amusé à créer... sur mon site, sur le CRM, comparatif CRM, des dizaines d'articles sur comment choisir un CRM, les meilleures méthodes pour choisir un CRM. C'était de l'IA à peine relu, intégré. Je me suis même amusé à envoyer des contenus sur des résumés de livres sur le business, etc. Et on voit bien que ça ne génère quasiment rien. Il n'y a quasiment pas de trafic. Par contre, si vous êtes sur un site où vous arrivez à la fois à avoir un site de référence sur une thématique, vous envoyez des signaux à Google, vous en dites, regarde, il y a du trafic naturel qui vient de ma newsletter, il y a du trafic qui vient de LinkedIn, les gens restent longtemps, je fais du contenu qui est un petit peu différenciant. Là, ça peut marcher. Donc, on arrive comme sur un paradoxe qui est je crée du contenu et ça marche, à je crée du contenu et c'est même pas sûr que ça marche, en fait. Donc, c'est un paradoxe qui est assez important. Et moi, ce que je conseille toujours de faire, c'est vérifier si ça marche. Là, je vous ai mis une petite capture écran. Quand vous faites des articles de blog ou des contenus sur votre site, hein, article blog, c'est vraiment le classique, mais ça peut être aussi des sites web, vérifiez si Google va bien le référencer. Donc, vous avez la Google Search Console, vous allez ici dans la petite fonction qui permet en fait d'analyser une donnée. Donc, vous analysez en fait le trafic, hein, résultat de recherche, et vous allez cliquer sur, bon, ça ne se voit pas très bien, mais là, vous allez cliquer sur « Ajouter un filtre ». Vous mettez l'URL de la page ou de l'article de blog en question et vous regardez ce que ça fait. Et là, justement, dans cet exemple-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai pris en fait l'exemple de droite, Claude Cowork, votre équipe marketing pour 17 euros par mois. Et c'est vrai qu'on peut voir que cet article-là, le jour de sa parution, bam, il a fait 50 000 affichages dans Google. Par contre, il y a eu très peu de clics. Après, donc, ça a baissé parce qu'il y a relativement peu de clics. Et on voit qu'il y a quand même un peu d'affichage et un peu de clics. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Google s'est dit, hey, regarde, il y a Fred qui a produit un article super intéressant. Il l'a montré aux internautes. Finalement, ils n'ont pas beaucoup cliqué. Et donc, bah, finalement, il a moins affiché. Cela veut dire que tu dois vraiment être beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu là-dessus. Là, par exemple, en l'occurrence, ce que j'en déduis, c'est que mon titre et la description n'étaient pas optimisés parce que ça n'incitait, Google l'affichait, mais ça n'incitait pas en fait à aller cliquer. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment une précision et une pertinence qui doit vraiment être travaillée, mais au micron près pour réussir à convaincre les personnes en fait, et Google de vous faire confiance. Alors, je vous ai mis un autre exemple derrière, et après, je vous laisserai réagir tous les deux, en disant que, OK, on a parlé d'Infocalypse, de contenu de masse, de la possibilité de générer des mini-vidéos, des images par l'IA, d'utiliser des l'IA pour générer du contenu avec des patterns, du copywriting pour que ça fasse cliquer. On voit tous passer ces posts aspirationnels où mon meilleur échec, où j'ai passé à faire ceci, cela. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut faire des contenus intéressants, mais le contenu, enfin court, je veux dire, mais le contenu lourd, court, long reste quand même assez intéressant. Et je vous ai mis ici deux, trois exemples. Là, mes meilleures vidéos qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, là, je vois il y a un mois et il y a quatre mois, ce n'est pas des vidéos de 5 minutes, ce n'est pas des vidéos de 30 secondes, ce n'est pas des vidéos de 10 secondes, mais c'est au contraire des visions vraiment différenciantes avec un sujet qui est vraiment différent et qui parle, hein, tu parlais tout à l'heure des neurosciences, c'est des sujets qui intriguent. Et donc, pour moi, il faut vraiment travailler le sujet avec un angle différent et le contenu long peut très bien performer, en particulier sur YouTube, où en fait, bah, tu peux avoir des formats qui sont un peu longs, ou le podcast. Et à l'inverse, je dirais qu'à l'inverse du scope, tu as le contenu ultra court et ultra frais. Là, j'ai parlé de Claude Cowork, qui est un sujet vraiment d'actualité et ultra court, parce que les gens vont chercher beaucoup, parce que c'est la grosse tendance du moment. Là, ici, tu as parlé tout à l'heure, Philippe, du GEOF. C'est vrai que j'ai fait une vidéo avec Fabien Lérard, qui est un expert SEO, IA, et c'est vrai qu'on a fait une petite vidéo. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la vidéo principale, elle a fait quoi, 400 et quelques vues, si vous regardez bien avec vos yeux. Par contre, les mini-vidéos qui ont été réalisées, qui prenaient en fait des extraits que j'ai réalisés avec Opus Clip, hein, ben on fait beaucoup plus de vues que ça. Donc, on voit bien qu'il faut mixer à la fois du contenu long pour valoriser son expertise, travailler sur le contenu d'actualité parce que c'est des choses qui demeurent très recherchées, que ce soit sur Google ou sur YouTube.
Et ton point de vue est appuyé dans les chats, hein. Ton point de vue est appuyé dans les chats, Fred, merci, hein. Yasmina le dit, hein, c'est pour ça qu'il faut se positionner sur des contenus longs et précis, parce que d'une part ça permet de répondre aux besoins du zéro clic qu'on a vu tout à l'heure, et surtout de se positionner comme expert comme on vient de le voir à l'écran avec ces articles là que tu as mis en avant, quoi. Clairement ça joue en fait,
ouais, sur les deux. C'est très, effectivement, c'est très paradoxal, hein, parce que on pourrait imaginer que le contenu n'est plus de valeur, puisqu'on peut en produire comme ça de manière à la chaîne, quoi, hein, donc quasi à l'infini. Mais d'ailleurs, là aussi, c'est une tendance qui a été fortement accélérée avec l'IA, mais qui existait déjà. On parlait déjà de content shock, qui était une expression américaine qui disait qu'il y avait plus de contenu qui était déversé sur le web que ce qu'on pouvait humainement en consommer. Donc, il y avait déjà une courbe qui s'était… la consommation humaine, elle est comme ça, et la courbe du contenu, elle était comme ça. Et donc, quand ça s'est croisé, un Américain a sorti cette expression, je n'ai plus son nom en tête, mais l'expression « content shock », et c'était quelque chose qui était, je pense, c'est du 2015, hein, donc ça, c'est une expression qui a probablement déjà 10 ans. Donc, c'était déjà une tendance qui était à l'œuvre. Aujourd'hui, j'apprends rien, avec l'IA, on va produire en quantité, mais astronomique. Et donc là, ça pose un vrai problème, un vrai enjeu. Qu'est-ce qu'on va faire du contenu ? Et bon, vous avez donné des réponses. Il y a également quelque chose de très, très important, ça va être le branding autour du contenu. C'est-à-dire quelque chose qui va être, même si c'est fait avec de l'IA, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous montrerai mon usine à contenu dans un instant.
Cool. Ça peut être
avec l'IA, mais ce qui est très important, c'est que l'IA, en fait, elle ne va pas avoir de vécu. Elle ne va pas avoir d'expérience. Et c'est ça que vous devez finalement insuffler dans vos contenus pour qu'ils puissent être reconnaissables. Pour qu'on se dise, bah, tiens, je suis en train de lire un contenu de Fred ou de Philippe et pas un contenu de ChatGPT. Même s'il a été fait à 80% par ChatGPT. Ça, ce n'est pas vraiment le problème. Donc, c'est ce que j'appelle le branding du contenu. Hein. C'est arriver finalement à insuffler son ADN dans son contenu, dans ses prises de parole. Et on va les reconnaître sur LinkedIn, on va les reconnaître sur YouTube, puisque tu as montré des vidéos. On va les reconnaître, bien évidemment, à travers des blogs. Donc, ça, c'est ultra important. Également, ce qui est encore plus, c'était déjà très, très vrai par le passé, hein, quand on parlait de persona, quand on parlait de s'adresser à des audiences de niche, bah, c'est probablement encore plus important et presque, c'est, on va parler aujourd'hui de communauté. Donc là aussi, mixer les contenus, faire des lives, vendredi, je fais un live avec Chloé Shields, qui est éditrice chez Vuibert. On va parler de l'avenir du bouquin B2B. Est-ce que ça vaut toujours le coup aujourd'hui de rédiger, de publier un bouquin ? Bon, voilà, c'est des moments aussi d'interaction qui, pour le coup, là, sont purement des interactions purement humaines et qui comptent. Donc, tout ça, c'est des formes de contenu hein, qu'il va falloir utiliser. Et votre contenu long va être également des indicateurs pour les IA. Et les IA vont s'en servir. Hein, et donc, vous aurez probablement de la chance d'être cité par les IA si vous créez des contenus longs et qui sont bien évidemment longs et bons.
Ouais. Donc, aussi, et c'est justement voilà. L'illustration que je mettais là. On peut très bien faire du contenu qui va interpeller, imiter les tendances, mais ce n'est pas ça en fait qui va te ramener du prospect. C'est vrai que là, j'ai mis des grosses publications avec pas mal de likes et de vues, et pourtant, ce n'est pas celle-là qui va ramasser le plus de visibilité, soit en fait… Tu as un contenu hyper pertinent et tu payes, soit tu as vraiment créé, comme tu disais, créé du lien avec ta communauté. C'est ça qui va faire la grosse différence. Donc, tu parlais de ça, le slope.
Oui, alors deux choses. Vous voyez que c'est un email d'un ami qui me l'a fait suivre il y a deux jours. Donc, il s'est amusé à construire une entreprise sur Nanocorp. Voilà. Donc, on arrive, on a une idée, on lui dit, tiens, j'aimerais lancer, je ne sais pas quoi, une boîte qui fait des audits LinkedIn. Et le Nanocorp, donc ce sont des agents derrière, construit tout de A à Z. Donc, le site web, le copywriting, la connexion avec Stripe, il va commencer à spammer la terre entière pour trouver des clients. Ben, c'est juste fou. Et là, Nanocorp a envoyé un email donc à Bruno, Bruno Friedlinski, hein, qui s'est amusé à construire une entreprise. Et Nanocorp lui dit, on en est là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà ce qu'il me reste à faire. Et c'est juste incroyable. Donc, ça dépasse même le contenu. Hein. On parle beaucoup de slope, content slope. Mais on va se retrouver aussi avec des entreprises slop, enfin avec de tout. Donc, c'est juste fou. Ouais, donc, ça, c'était la première capture d'écran. Puis la deuxième, qui est mon usine à contenu, c'est que c'est vraiment un plugin que j'ai construit sur Cowork, alors qui justement, hein, vous permet d'accélérer en termes de cadence sur le contenu, que ce soit du contenu long, du contenu moyennement long ou court. On peut même faire des scripts vidéo pour du YouTube, par exemple, ou du TikTok. Mais c'est vous qui, malgré tout, conservez la main et c'est vous qui allez, grâce à ce plugin, finalement, éduquer progressivement Claude pour qu'il puisse rédiger, concevoir des contenus qui ont votre propre ADN. Et depuis que j'utilise ce plugin, je l'ai testé pour moi, je peux vous dire que j'ai multiplié, mais par minimum, mais vraiment minimum, 3 ma force de production. Donc aujourd'hui, finalement, je produis beaucoup plus pour mes clients et avec des niveaux de qualité qui sont sincèrement absolument pas dégradés. Et d'ailleurs, je contrôle beaucoup d'ailleurs le résultat de mes contenus, comme vous l'a montré Fred, sur Google My Business, Search Console et Google Analytics, et j'obtiens de très, 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 très bons résultats avec ces contenus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment à vous installer, à faire. D'ailleurs, une des offres que je vais prochainement lancer. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'interpeller sur LinkedIn. Donc voilà. Donc, soit je vous installe le plugin, on le configure et après vous êtes autonome, soit je peux même produire le contenu directement pour vous, l'installer dans mon instance et puis récupérer de vos contenus, votre ADN, vous interviewer et setuper tout ça pour créer des contenus qui soient aux petits oignons.
Alors justement, la question d'après, c'est est-ce que ton prochain client sera peut-être pas un humain ? Parce que là, tu as créé quasiment un monstre, tu as créé un robot.
Alors, moi, c'est encore une fois, c'est mon avis, hein, mais je suis pas le seul d'ailleurs à l'avoir. Je pense sincèrement que pour tout ce qui va être achat, un peu de commodité, ça sera des agents acheteurs qui vont parler à des agents vendeur. Et là aussi, hein, finalement, la force du contenu va être importante parce qu'elle va permettre d'influencer des agents acheteurs. Donc là aussi, on voit quand même l'importance, hein, encore une fois, du contenu qui va être soigné, qui va être différenciant. Mais c'est clair que aujourd'hui, c'est déjà, je suis tombé sur une stat, mais qui m'a carrément scotché, c'est déjà 89% des acheteurs en B2B qui utilisent l'IA pour se renseigner et pour être finalement conseillé. Donc,
d'où l'importance d'être dans le top of mind. Si tu n'es pas dans le top 5, tu n'existes pas. Comme avant, tu n'étais pas présent dans Google ou Google Ads. Et ben en fait, là, si tu n'es pas présent dans l'IA,
Donc, on voit que déjà, il y a une énorme influence des résultats communiqués par les IA dans nos actes d'achat. Et donc, en tirant un petit peu le fil, ça sera des agents tout agents, quoi, tout simplement.
Quand on voit les exemples de Nanocorp… C'est vrai qu'en plus, on le constate maintenant sur LinkedIn. Toi, je ne sais pas si vous le voyez sur vos publications, mais toutes ces publications, commentaires IA, ils se voient en plus qu'ils ont fait par aussi comme Claude ou autre, hein, peu importe. Mais c'est vrai que tu as cette authenticité qui va vraiment être, pour moi, au cœur du sujet. Alors, IA Turia, tu en as parlé avec des exemples ici à l'écran.
Oui, on voit effectivement déjà hein, des réseaux sociaux qui sont faits pour des agents IA, donc où l'humain n'a pas vraiment de rôle à jouer. Donc, c'est assez impressionnant. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, chacun pensera. On n'est pas là pour mettre du jugement de valeur. On est juste là pour vous dire, attention, c'est des choses qui sont en train d'arriver et c'est des tendances hein, qui font que il y a cette convergence qui arrive et qui remet en question notre rôle de marketeur. Voilà. Et puis sur l'autre côté, c'était simplement moi qui avais dit, je sais plus quoi, je suis consultant, c'est quoi le meilleur CRM pour moi, et on voit les réponses. Je crois que j'ai utilisé Grok. Donc voilà, c'était juste pour illustrer le fait que aujourd'hui on va se renseigner via les IA quand on a une sélection de fournisseurs à faire.
Ouais, d'ailleurs, là, on arrive tout à fait à la suite logique. C'est avec tous ces contenus, il y aura des canaux qui vont être de plus en plus saturés, hein, Philippe.
Clairement, oui. Comme on peut publier des contenus assez facilement et en produire extrêmement facilement, on l'a vu avec les IA, même avec les humains qui ordonnent à leur solution de dire de le faire. Du coup, forcément, ce qui se passe, c'est que les canaux saturent. Alors, ça se traduit comment? Tout d'abord, on l'a tous remarqué, hein, le graphe qui est à gauche, c'est LinkedIn. Le reach est en perte des vitesses, on le sait tous. Toutefois, on peut aussi se dire quand même que l'engagement augmente, ou du moins, il décroît moins vite, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? fois, c'est-à-dire qu'il y a tellement de contenus qui sont publiés, j'ai plus les chiffres en tête moi non plus, mais toutefois je sais que on a multiplié peut-être par 10, par 15, par 20 peut-être en tout cas, la production de contenu. Avant, on n'était que 1% des membres LinkedIn à publier, à fournir le contenu. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein, on le sait tous. Donc je dirais pas dire qu'on est 10% à publier sur LinkedIn. Toutefois, les chiffres sont en forte croissance. Bah du coup, forcément, le reach décroît parce que on est confronté à de plus en plus de contenu, et parfois par du mauvais contenu, comme on l'a vu jusqu'à présent avec le slop, quoi. Et à droite, c'est aussi une capture d'écran qui me plaît pas mal parce qu'on le connaît tous. Ça, hein. Alors, bon, ça, c'est le site Futura. C'est dommage parce que parfois, c'est pas inintéressant ce qu'il raconte. Mais quand vous lancez une page web, ben voilà ce qui se passe, la RGPD, les pubs dans tous les sens. Du coup, on met des adblockers, du coup, on ne clique plus. Alors, voilà, c'était surtout pour dire qu'on est saturé de contenu et on est saturé, en fait, même de publications et de ads. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi ? Qu'est-ce qu'ils font faire? Et je crois que aujourd'hui, si on l'a dit, alors on va tous réagir là-dessus, puis on va venir sur l'audit d'obsolescence, parce que je crois que c'était l'une des attentes de ce webinaire, et le retourne, ce qui est déjà moins le cas. Quoi qu'il en soit, c'est devenir un bon marketeur, on l'a vu, c'est plus un problème. Les outils sont là pour nous aider, et même parfois, elles le font elles-mêmes. Alors, permettez-moi d'aller un peu plus vite, messieurs, mais est-ce que tu veux prendre
Bien sûr, 30 secondes sur Génération IA et Benoît Raphaël. Hein, c'est que c'est Benoît Raphaël, qui est un journaliste, qui a une des newsletters les plus intéressantes actuellement sur l'IA. Et bon, bien évidemment, grâce à ça, il va vendre des formations et des bootcamps. Et c'est Benoît qui le dit lui-même. Il dit, avant, j'étais absolument nul en marketing. Et puis, je trouvais, en tant que journaliste, je trouvais ça un petit peu sale, quelque part, le marketing. Et puis, à un moment donné, bon, je faisais quand même beaucoup de travail. Je ne vendais pas beaucoup de formations. Donc, j'en ai eu marre. Je me suis dit, allez, il faudrait peut-être que je m'intéresse au marketing. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il a simplement utilisé l'IA pour comprendre quels étaient les rouages qui fonctionnaient bien. Donc, il est allé voir des campagnes qui lui plaisaient et qui lui semblaient être efficaces. Et il a fait du reverse engineering. Donc, il a demandé à l'IA d'expliquer quelles étaient les campagnes, quels étaient les processus en œuvre qui étaient déployés par telle ou telle marque ou tel consultant comme lui. Et petit à petit, il a compris les rouages et il a demandé à l'IA, tiens, comment on pourrait les appliquer à Génération IA et à mon business. Et c'est devenu un pro, un killer du marketing. D'ailleurs, il suffit de voir les résultats qu'il a en termes d'abonnés à sa newsletter. Voilà, donc aujourd'hui, on peut tous devenir des très, très, très bons marketeurs avec l'IA.
Alors justement, il y a trois questions à se poser pour ne pas être transformé en marketeur obsolescent. Alors, je vous laisse nous les poser.
Alors, je démarre, Steph. Tout d'abord, en fait, ce qu'on aimerait clarifier, donc, c'est vraiment qu'est-ce qui va disparaître, hein, dans son métier. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, les compétences qu'on avait jusqu'à présent pour écrire du contenu, est-ce que finalement les IA vont nous remplacer, vont le faire mieux que nous ou pas? Donc c'est une question à se poser, je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Chacun évidemment va y réfléchir. Hein. L'idée c'est vraiment quelles compétences aujourd'hui on vendait. Alors parfois on dit que nous les indés on vendait parfois des jours, je ne sais pas si certains continuent à le faire, mais je pense qu'il va falloir que vous changiez, en tout cas pour vendre maintenant des livrables, hein, c'est certain. Donc avant, quelles compétences on vendait et qu'est-ce qu'on ne fera plus bientôt? C'est vrai que finalement, à titre personnel, moi j'ai une compétence de journaliste puisque c'était mes études initiales. Après, j'ai fait de la pub et de la com. La compétence d'écrire du contenu, ben voilà, on l'a vu là depuis ces 3-45 minutes, là, 45 minutes qu'on discute tous ensemble. Ce contenu, est-ce que je pourrais toujours la vendre dans 3 ans? Voilà, c'est une première question qu'on peut se poser. La deuxième question, je laisse la main peut-être à…
Oui, ben, je reviens quand même sur la première, c'est que je vais être très, très cash. Posez-vous la question, tout simplement, vous partez du postulat, mon business model est mort. Et réfléchissez comment vous pouvez, le transformer, ce n'est pas du jour au lendemain, vous pouvez vous donner 2 ans, 3 ans pour le transformer, mais dans tous les cas, faites cet exercice, votre business model est mort. C'est que c'est, ne serait-ce qu'intellectuellement, c'est super, super intéressant. Rappelez-vous, hein, on est en pleine convergence. Hein, donc, est-ce que vous êtes dans le camp de Nokia et de BlackBerry ou est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui vont pouvoir s'adapter, hein. Donc, ça, c'est absolument essentiel de se dire quelles sont les compétences aujourd'hui qui se vendront plus parce que ça va devenir des commodités et quels sont finalement les impacts de ces transformations sur mon business model. Voilà, j'ai pas de réponse, malheureusement, toute faite, mais c'est une réflexion que vous devez avoir et moi, je l'ai quasi systématiquement tous les jours aujourd'hui. Hein, et plus j'avance, plus je suis effaré par les capacités de l'IA. Et encore une fois, je vous disais, hein, quand on commence à mettre les doigts dans Cloud Code ou dans du Cowork ou dans du OpenClaw, on voit que l'exécution, là, c'est fini. Quoi, hein, donc,
première question, moi, c'est…
Exécuter dans tous les cas d'opérationnel, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en faire.
La première question, c'est
qu'est-ce que question
tu vendras, voilà, la deuxième.
Ouais. Alors, ça, c'est aussi très, 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 très important. Hein. C'est finalement, quelle est finalement la connaissance très, très fine que j'ai de mon secteur qui peut faire en sorte que finalement, une IA ne pourrait pas me battre sur ce terrain. J'ai parlé de vécu, j'ai parlé d'expérience. On va retrouver ça derrière la connaissance sectorielle. Hein. Donc, si vous n'êtes pas ultra expert de votre métier et de votre niche, devenez-le parce que ça sera vraiment un rempart justement contre la commoditisation.
Ah oui, c'est pas facile, j'ai toujours du mal avec ce terme-là aussi. Moi. La commoditisation, je sais pas quoi. Ouais.
Devenez ultra expert de votre secteur et presque, c'est peut-être même des solutions, hein, mais c'est presque en arriver à être en capacité de diagnostiquer les tendances avant qu'elles n'arrivent et voire même les convergences avant qu'elles ne s'imposent.
C'est quoi la troisième question ?
Commodification quand même, juste, hein, comme on soit tous d'accord quand même. Allez, troisième question, vas-y, peut-être toi Fred justement, qu'est-ce que tu veux en parler ?
C'est clair que quelle place occupes-tu dans la vie de tes clients ? Et ça, je vous donnerai des exemples après. J'ai essayé de me projeter grâce à vos trois questions sur mon activité à moi. Mais c'est vrai que si tes clients ne te pensent pas à toi comme étant la référence dans ton domaine, moi j'appelle ça cette fameuse starification. Starification, c'est quand tu penses expert marketing digital, est-ce que tu penses Philippe Gasto, Stéphane Truffen ou qui d'autre ? Alors, bien entendu, moi, je pense à vous deux, les gars. Et il faut se dire, à qui ils vont penser ? Alors, je ne sais pas si c'était la question et la réponse que vous attendiez.
Non, mais c'est important, là aussi, c'est une forme de diagnostic qu'on doit faire, finalement. Est-ce qu'on a une place qui est plus proche de la commodité ? Donc, je crée du contenu, je peux prendre n'importe quel autre rédacteur de contenu. Ou est-ce que la création de Stéphane, la création de Philippe, la création de Frédéric, elle est pour moi un peu unique ou au-delà de ce qu'on va produire, c'est l'échange qui va être intellectuellement intéressant. Donc ça aussi, c'est une des questions que vous devez vous
devenir inspirant.
Oui, c'est ça, c'est se dire, est-ce que je suis inspirant pour mes clients ? Est-ce que j'ai une qualité de rendu qui fait que je me rends indispensable ? Ou est-ce qu'au contraire, je suis finalement complètement remplaçable ? Et si c'est le cas, il vaut mieux se le poser maintenant que d'être remplacé. Hein. Donc, tout ça, ce n'est pas grave. Le tout, c'est d'arriver à faire un constat qui soit quand même relativement objectif. Et se dire, dans les 2-3 prochaines années, comment je peux transformer, m'adapter à cette convergence.
Alors justement, on arrive vers les solutions, parce que Philippe va devoir nous quitter dans 2-3 minutes.
Non, mais je vais rester, bien sûr, mais c'est gentil de le rappeler, Fred, t'inquiète pas. La première solution, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on se disait à l'instant, c'est tout d'abord devenir une infrastructure du quotidien. Il y en aura une seconde derrière qui va, vous allez voir, qui va en fait être complémentaire à celle-ci. Je crois que c'est plutôt Steph qui va être vachement plus à l'aise là-dessus pour expliquer ce qu'ils voulaient amener sur le fait que quand Spotify est en panne, moi j'avais d'autres exemples, hein, j'avais Canva aussi, hein, je crois qu'on a tous souri lorsque AWS avait un shutdown, les serveurs de Microsoft étaient en panne, tous les SM étaient en tanasse parce qu'on ne pouvait plus se servir de Canva. Voilà, en gros, qu'est-ce qui se passe quand un outil ne fonctionne plus? Bah, en gros, c'est de la frustration, donc c'est un manque, hein, c'est un peu ce qui est écrit à l'écran. Et comment on fait? Ben, c'est peut-être ça, Steph, sur lequel il faudrait revenir, sur l'infrastructure qu'on se fait au quotidien. Ben,
c'est ça, c'est en fait, voilà. c'est des entreprises qui sont devenues tellement indispensables qu'elles en deviennent des infrastructures du quotidien. Voilà. Bon, aujourd'hui, vous me coupez mon compte Cloud, je vais être vraiment très, très triste. Bon, on voit, on n'a aucune appétence avec, j'en sais rien, un Bouygues, un SFR ou un Free. Malgré tout, si on nous coupait notre connexion Internet, vous voyez que on souffrirait. Bon, voilà. Donc, c'est des boîtes qui sont des infrastructures du quotidien parce qu'elles nous permettent tout simplement de vivre. Si je vous supprimais votre smartphone, je pense que ça ne vous ferait pas plaisir. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des infrastructures.
Il faut faire attention non plus à ces addictions, quoi. Mais c'est pour ça que c'est bien de rajouter dans la solution qui suit à l'écran, parce que pour moi, elles sont complémentaires, c'est devenir, enfin, une infrastructure de l'émotionnel. Alors, la phrase, elle est peut-être très jolie comme ça, mais on l'a dit tout à l'heure, quoi. L'humain est encore là. Qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir, Fred, Steph, et puis vous tous, là, qui participez gentiment, qui répondez dans le chat, là. Je vois quelqu'un qui dit, il y a de la poterie, ouais, pourquoi pas.
Ouais, Stéphanie qui dit que le marketing est un des secteurs qui adopte le plus vite l'IA et qui remplace de plus en plus des tâches humaines par l'IA. Et comment on peut faire? C'est vrai que on a tous vu ces vidéos de personnes qui étaient traducteurs, qui étaient monteurs, j'ai en mémoire je crois que c'était quelqu'un qui était dans le copywriting ou qui était dans la publicité ou l'écriture, qui disait: je me suis reconverti en DJ, c'était un truc d'amateur. Et tu vois le mec de 50 ans qui fait DJ, tu te dis waouh, et c'est pas le même niveau de salaire, c'est pas la même chose, c'est pas la même vie.
Bah oui. Ouais, moi je vais devenir ébéniste aussi, sinon peut-être, je sais pas. Ou la poterie, comme dit Stéphanie, quoi. Ouais, donc voilà, donc ces structures émotionnelles, on a suffisamment parlé sur cet aspect humain. On sera plus sur des compétences, là, ce qu'on a mis, c'est parce qu'on sera le moins cher. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fonctionne plus, nous, en tant qu'indé, sur des jours. Hein, il y a encore des gens qui fonctionnent au TJM. Nous, on fonctionne maintenant au livrable. On est d'accord qu'aujourd'hui, on a presque 50 ans. Un petit peu plus pour Steph, dont c'est l'anniversaire, je vous le rappelle. histoire de bien le replacer, celui-là. Hein, mon Steph. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille plutôt sur un livrable. Enfin, toutes nos années d'expérience nous permettent, toutes nos années d'expérience nous permettent de proposer un résultat clé en main. Plutôt que de travailler sur du temps pour écrire un article. Il ne nous faut plus une journée pour écrire un article de blog aujourd'hui, on le sait tous, ni une demi-journée, je ne sais pas combien de temps vous mettiez, hein. Mais quoi qu'il en soit, en l'espace de 5 minutes, vous avez un article de blog qui est écrit, qui répond aux meilleures pratiques SEO, GEO, quoi. Voilà.
Ouais, alors l'infrastructure de l'émotionnel, on voit, hein, typiquement, donc tout en haut, j'ai positionné des infrastructures du quotidien. Voit Spotify, si on est abonné, peu importe, hein, ça peut être un Google, un Apple Music un HubSpot, par exemple, j'aurais dû mettre le logo de la boîte de Fred, je suis bête, qui est une infrastructure du quotidien pour tout ce qui est relations clients. Et donc là, on voit que si vous êtes chef de projet et que vous utilisez au quotidien HubSpot, on vous coupe HubSpot, ça ne vous fait pas plaisir. Et les infrastructures émotionnelles, ça va être des boîtes, Pollen, par exemple, hein, qui est un magasin là, où chaque fois il y a des queues d'enfer. Un quartier, on va s'acheter une montre quartier à 10 000 euros, alors que le coût de production, ça a été quelques centaines d'euros. Ou des Pantagonia, par exemple, ça va être des marques qui vont jouer beaucoup, beaucoup sur l'émotionnel. Voilà, alors en tant que consultant, là non plus, j'ai pas de réponse toute faite à vous donner, ou petite boîte, mais à un moment donné, il faut se dire, tiens, est-ce que je joue sur le caractère purement émotionnel? Est-ce que je joue au contraire sur le caractère infrastructure du quotidien? Je produis des contenus qui font doubler le chiffre d'affaires de mes clients. Vous voyez que je peux l'annoncer, je peux le dire, et je deviens une infrastructure du quotidien parce que mon client, il peut plus se passer de moi. Voilà. Ou au contraire, je suis quelqu'un qui est très, très, très proche du DG de la PME, qui lui souffle à l'oreille, qui va le conseiller, qui va le rassurer, etc. Je deviens plutôt une infrastructure émotionnelle. Voilà. Donc, c'est deux terrains sur lesquels on peut jouer. Bien évidemment, il y a des marques qui sont un peu, qui jouent sur les deux. Oui. Un Apple, bon, après, c'est un peu des marques ultimes, hein, mais ils sont à la fois sur le quotidien et l'émotionnel. Mais c'est deux pistes, en tous les cas. Une fois que vous avez fait votre audit d'obsolescence, c'est deux pistes sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Encore une fois, hein, désolé, je n'ai pas de réponse toute faite.
Ouais. Et c'est vrai que là, en préparant la présentation, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je pourrais avoir comme réponse? Et c'est vrai que moi, je me rends compte que la création de contenu et l'animation d'une communauté, la fédération, je m'aime bien une fois d'une communauté, c'est une vraie histoire de pro. Et c'est vrai que là, j'ai mis l'exemple de la brigade du WM, là, qui m'a accueilli il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que maintenant, tu sais que créer du contenu, les boîtes ne savent pas faire. Et par contre, des indépendants, des spécialistes, des experts. Par exemple, moi, dans le domaine de la relation client, je parle toujours de Marine Deck. Marine Deck est devenue l'influenceuse de la relation client parce qu'elle crée du contenu. Les entreprises ne savent pas le faire. Le deuxième point, c'est valoriser son réseau. Tu l'as dit toi-même, créer du lien, créer de l'émotion, avoir de la proximité. Et bien sûr, comme tu l'as dit, s'approprier une micro-thématique. Moi, c'est l'effet waouh dans la relation client. Quelle est votre micro-thématique, vous êtes le leader, le secteur et qui va intéresser les gens. On parlait des neurosciences tout à l'heure, moi je suis persuadé que en opposition à la vague de l'IA, les neurosciences seront fortement quelque chose à mettre en avant. Alors justement là, on arrive à la solution 3, lire les convergences avant qu'elles s'imposent.
Ouais, là c'est vraiment, ça rejoint un peu la slide qu'on évoquait tout à l'heure, hein, sur devenir très très expert finalement de son secteur. Et c'est sûr que si on arrive à comprendre ces conjonctions de tendances pour aller renseigner et conseiller ses clients, ben là, pour le coup, on apporte une valeur qui est juste énorme, hein, parce qu'on va aider le client à pivoter, à s'adapter. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, très, très compliqué à faire.
Alors, on arrive à l'avant-dernière slide de ce webinaire. Alors, on a dépassé un petit peu le timing. Tu parlais de structurer ton contenu pour convaincre un agent IA et pas seulement un humain. Enfin, vous parlez de ça.
Ouais, ben, je pense que c'est un peu, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, hein, je pense que c'est très, très, très important finalement. C'est une question de disponibilité mentale, hein. Pourquoi le contenu est important? C'est parce que finalement, vous allez créer une forme de top of mind auprès de vos clients. Mais ce top of mind, il faut aussi le créer auprès des IA, sinon vous n'allez plus demain, vous n'allez plus du tout exister. Hein. Donc après, on parle de JO, on parle de plein d'acronymes. Peu importe, l'idée, c'est de dire comment moi, je peux aujourd'hui, avec mon contenu, influencer positivement. Hein. Ce n'est pas de l'influence au sens des fois un peu péjoratif, avec une image qui n'est pas forcément toujours très, très positive de l'influence. Non, là, c'est bien l'inverse. C'est comment j'arrive à influencer positivement mes communautés, mes clients, ma niche. Et également l'IA, quand cette IA-là va être interrogée sur ma niche.
Finalement, c'est un peu ce qu'on a toujours essayé de faire, hein, ne serait-ce qu'avec le SEO, puisqu'il fallait d'abord répondre aux besoins des consommateurs, des clients qui voulaient obtenir une réponse dans nos contenus, nos articles de blog. Et en même temps, il fallait aussi répondre aux exigences de Google avec les mots-clés bien placés. Parfois, on avait une densité de mots-clés qui était trop importante, donc il fallait aussi faire attention à cela, la profondeur des titres. Bref, on a toujours, nous, dans nos métiers, essayé de répondre à nos clients en priorité, bien sûr, tout en gardant cet aspect aussi pour soit les algorithmes et aujourd'hui, maintenant, pour les IA. Quoi.
Alors, ouais, c'est pour ça que le contenu devient de quelque part de plus en plus compliqué à produire, parce qu'il devient très tech. Hein. Donc, on voit que si on veut influencer, vous utilisez une IA sans véritablement l'avoir éduqué à votre ADN, par exemple. Bon, ben ça va être du slop et vous allez ni influencer des humains, ni influencer des IA. Donc, de toutes les manières, vous pouvez en faire un coup, hein, comme l'a cité Frédéric au début du webinaire. On peut très bien inonder sur un nom de domaine très spécifique et, par exemple, faire des opérations d'affiliation, vendre des choses. Voilà, ça peut marcher pendant un mois, deux mois, trois mois. Mais à terme, c'est des choses qui sont, qui vont être balayées par les algos. Donc, l'idée, hein, c'est vraiment d'arriver à faire du contenu qui va porter, qui va créer cette fameuse influence positive. Et là, c'est compliqué parce qu'on voit que ça devient de plus en plus tech. Hein, donc, il faut savoir écrire, il faut savoir devenir un expert de son sujet, mais également, il faut devenir un peu un tech pour pouvoir manipuler le contenu et toute la
data. Et les résultats obtenus,
Et la data qui va avec. Donc, c'est important.
Alors, le temps passe assez vite. Je sais que Philippe, tu as une contrainte qui...
Oui, mais c'est gentil de me le rappeler. T'es sympa, mais je suis à 100% et 1000% avec les participants qui ont eu la gentillesse de nous écouter, de réagir dans le chat. Donc, merci de me le rappeler, Fred. Mais
c'est à fait. Ah ben voilà, la poterie en boîte de nuit.
Je suis là avec vous. Ouais, c'est ça, c'est la poterie en boîte de nuit, Steph. On a vu passer quelques petits messages dans le chat et Human After All, là, c'est Johan qui le rappelait.
J'ai une petite bouteille de champagne.
Et moi, j'ai mon gin tonic, je ne dis rien.
Mais je vous rassure, ce n'est que de l'eau, là, pour l'instant.
Pareil, évidemment. En tout cas, ouais, on a vu que oui, l'émotion, on a parlé d'humain, donc c'est plutôt rassurant. Et puis, Steph l'a synthétisé, là, à l'instant, pour dire que c'est vrai qu'il fallait avoir toutes ces compétences-là, métier, compétences tech, et puis toujours rester humain pour faire passer l'émotion. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, mais je pense que là, vous le saviez à peu près tous ensemble, quoi. Je vois la question, qu'est-ce qui vous inspire ? C'est Fred qui la pose, j'imagine, aux participants. Allez,
qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Comment vous allez réagir ? Parce que c'est vrai que les trois questions que tu nous as demandé de nous poser sont vraiment clés. Moi, j'ai essayé aussi d'y répondre un petit peu quand j'étais en travail de préparation. Mais il y a aussi une question que j'ai vraiment bien aimée qui était mais qu'est-ce qu'on va faire aussi pour les jeunes ? C'est vrai que c'est un petit peu. C'était tout au début de la live. Il y avait une personne qui disait, mais attention, l'IA est en train de remplacer les métiers d'exécution. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces personnes-là? C'était un vrai problème pour les stages et les premiers emplois.
C'est clair, alors je suis carrément concerné. Notre fille a 18 ans et une école de com, et elle est en ce moment en train de faire son stage, en ce moment, pendant qu'on se parle. Et justement, l'IA fait partie de son quotidien, c'est-à-dire qu'on a dû créer parce que je lui donne un coup de main, bien sûr. Parce que je suis son père et que j'aime l'aider dans son quotidien. Donc je l'ai aidé à créer un site web. Et c'est vrai qu'en l'espace d'un après-midi, on a travaillé sur WordPress. Dès qu'on avait des questions, dès qu'on avait besoin de contenu, on est passé par l'IA, aujourd'hui ça fait partie des outils qu'elle utilise. Enfin, j'avais l'impression d'être un peu vieux en disant ça, mais il est une époque où on utilisait Sarbacane pour envoyer des emailings, hein, d'accord. Donc Sarbacane, je pense, c'est le même exemple, mais il fallait attendre 19h, hein, et appuyer sur le bouton pour qu'on envoie en masse à tout le monde.
Non, mais je veux dire, mais t'es vieux en fait.
Mais ouais, mais j'ai 50 ans, mec. Allez, et du coup, aujourd'hui, on utilise les outils qui nous permettent d'automatiser tout cela. Donc, les jeunes font pareil, ils vivent avec ce monde-là. Enfin, là, c'est un peu idiot ce que je vais dire, mais enfin, faut s'adapter, quoi. C'est Darwin. Donc voilà, on est arrivé avec le monde d'Internet, les enfants avec les IA, quoi. Ouais. Ça permet d'aller plus vite, dit Jean-Emmanuel, ouais.
Ouais, plus vite et c'est plus pointu. Donc on a dit, c'est obligé d'être multitâche. C'est ce que je disais tout à l'heure dans les commentaires. C'est que moi, il n'y a pas très longtemps en fait, on organisait encore un événement et c'est là qu'on m'a dit bon allez, Fred, on va faire la charte graphique parce que notre personne s'occupait du graphisme était en congé mat. Et je me suis retrouvé à dire bon on va faire une charte graphique et je me suis amusé avec l'IA à réaliser une charte graphique qui finalement, j'en suis très content. On est bien sûr, on l'a pas. J'ai pas dit tiens, je sors moi ce truc-là. J'ai fait un process, j'ai cherché un concept. Donc c'est un truc sur un bateau, une péniche. Donc j'ai été sur Pinterest, j'ai choisi un petit peu de l'inspiration, j'ai trouvé des billets, des machins. Je lui ai filé quelques idées. Il a fait un petit mix. Non, je change ci, je change ça. Ah, la péniche elle est pas bien. Prends la vraie, etc., etc. Et c'est vrai qu'en 3 heures, on va dire, j'avais cette charte graphique en 2 heures. Et c'est vrai que c'était très très propre. très très propre. Pareil, lorsque il n'y a pas trop longtemps, je devais faire des petits scripts dans notre CRM, là, j'utilise Salesforce. C'est vrai que du script, auparavant, je demandais à mon collègue Nico de me dire, Nico, tu peux m'aider un petit peu pour faire ce script-là? J'aimerais bien qu'un bouton rouge s'affiche quand c'est rempli, quand c'est pas rempli, et quand ce champ-là, etc., qui était très compliqué. Désormais, en fait, j'ai demandé à Gemini, et Gemini est capable de le faire. Donc, en fait, on voit que le métier de marketeur devient de plus en plus varié, de plus en plus important. Comme tu as dit, l'opérationnel fait partie du quotidien et tu deviens multitâche, plutôt suisse. Et quelle est la tâche après pour les débutants? Alors, un débutant, je pense que toi, il va pouvoir monter en compétences beaucoup plus rapidement, mais autant faut-il lui laisser la place.
Cultiver la curiosité, quoi.
Le gros problème, c'est que c'est une question de place. Tu as beau t'adapter, si de toutes les manières, hier, tu avais dit 10 stagiaires ou 10 débutants, tu en as besoin de plus d'un. Bon, voilà, il y en a 9 qui, par définition, vont rester sur le carreau. Donc là, j'ai pas vraiment. Enfin, c'est quelque chose de très 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 inquiétant. Moi, ce que je dirais à mes enfants, c'est développer votre curiosité. Je pense que c'est super 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 important. Votre créativité, là aussi, c'est ultra important. Arriver sur le marché de l'emploi dans votre domaine déjà avec des agents qui ce que vous avez construit vous pour parce que ça sera un atout un peu comme le CV comme quand je sais pas on était graphiste il fallait cocher la case Photoshop sur son CV. On pouvait pas engager un graphiste qui connaissait pas Photoshop à notre époque, Philippe. donc là, c'est pourquoi pas, je veux dire, arriver avec un agent qui, exactement ce que tu as fait, Fred, pour ta charte graphique, et prouver que même si on est débutant, on va avoir une productivité de dingue grâce à ça, et qu'on s'est déjà formé sur l'IA. Et puis après, dernier point, j'en parlais, j'ai fait un post LinkedIn là, l'autre jour, qui n'a pas trop mal marché d'ailleurs, c'est aussi investissez en bourse très rapidement, ouvrez-vous les jeunes en PEA, là, maintenant, là,
achetez plus de la bière et des gadgets, mais investissez dans un PEA pour
votre... Non, c'est pas de la rigolade, je pense que c'est quelque chose, au bout de 15 ans, 20 ans, c'est malgré tout, construit un petit capital et probablement un petit revenu passif. Donc, il faut y aller, quoi. Je veux dire, c'est...
Si on se fait un petit résumé, quelles seront pour vous les deux actions qu'il faudrait mettre en place dès demain en tant que marketeur? Et ensuite, en même temps, si vous pouvez présenter un petit peu ce que vous proposez justement pour aider les entreprises à passer à l'action. Alors, par Philippe.
Ah oui, avec plaisir. Oui, au risque de me répéter, cultiver notre curiosité, être multitâche, ça me paraît super chouette. Formez-vous, quoi. Formons-nous. Enfin, je veux dire, c'est quand même extrêmement simple aujourd'hui de pouvoir accéder à la formation gratuite dans un premier temps. Ensuite, faites appel à des professionnels quand vous voulez aller un peu plus loin et acquérir des compétences plus importantes. Mais on a la chance de pouvoir suivre des cours en ligne sur Google, sur Claude, sur toutes ces choses-là. Donc, soyons curieux et continuons à nous former. Et puis, pour ma part, vous savez ce que je fais de toute façon. Je suis consultant en marketing, je l'ai dit tout à l'heure. Et si vous avez juste besoin de clarifier un peu votre offre et de structurer, vous gagner du temps, libérer un petit peu d'énergie et gagner surtout en sérénité. Sachez que moi, j'ai beaucoup de plaisir à remettre un petit peu d'ordre dans un marketing qui parfois peut être déstructuré, surtout auprès des TPE, PME et généralement en B2B, quoi.
Et toi, mon cher Stéphane ?
Vraiment, en fait, votre audit d'obsolescence, c'est à la fois intéressant intellectuellement et puis je pense que ça peut être très, 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 très éclairant. Donc, les trois questions qu'on a abordées durant le webinaire, au moins celle qui au moins cette posture, dites-vous, votre business model, il est foutu dans 3 ans. Voilà. Mettez-vous, c'est peut-être pas vrai, mais au moins mettez-vous dans cette posture, posez-vous cette question et commencez à réfléchir à comment je peux répondre à ce qui m'attend d'ici, dans les 3 prochaines années. Ça, c'est super important. Après, regardez comment vous pouvez monter en expertise. Est-ce que je peux devenir une infrastructure du quotidien? Est-ce que je peux devenir plutôt une infrastructure de l'émotion? Typiquement, pour être très 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 clair, je produis du contenu. je peux très bien me dire, tiens, je fais le choix de, au lieu de suivre 3, 4, 5 clients, parce que je peux en prendre 50 parce que je produis beaucoup plus vite, et donc je pourrais casser mes prix et les diviser par 5, et du coup être beaucoup plus compétitif sur le marché en termes de prix. Bon, ça, c'est un des objectifs. Ou au contraire, se dire, je vais faire un contenu aux petits oignons pour certains types de business parce que j'ai l'expérience, j'ai la connaissance de ce secteur-là. Et là, au contraire, faire un contenu qui va être beaucoup plus, premium et que je vais vendre, donc une prestation que je vais vendre avec la stratégie, par exemple. Donc voilà, donc on a des réponses, hein. C'est soit je monte sur l'échelle de valeur, soit au contraire, je me dis, j'ai fait du low cost, mais par contre, je produis beaucoup plus et j'obtiens et je change.
Deux créneaux, le luxe modèle. Ou le low cost. Entre les deux, on n'a pas de survie possible. Ok, je pense que ça va être un bon petit mot de la fin. Merci à tous les deux. Donc, vous avez vos sites internet
qui sont
affichés juste en bas. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter. Donc, notre ami Philippe Gasteau et Stéphane Truffem. Et vous pouvez même lui souhaiter un bon anniversaire. Ça les fera
plaisir. Hey, bon anniversaire, Steph, encore. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter.
Merci. Avant de partir, un petit coup de ballon, là. J'aime bien. Et puis surtout, des petits, un peu de love.
Salut.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Ciao tout le monde.